www.rocky.com.
Le matin, au www.rocky.com. On s'attend pas.
De 9h à 1h, c'est Wake Up.
Wake Up. Avec Ismaël
Trépanier.
Et Jonathan Bouchard.
Je vais vous poser d'autres questions. Est-ce que vous avez été violé? Vous n'avez jamais été agressé sexuellement?
Si vous connaissez une femme qui n'a jamais été agressée, au moins verbalement, sexuellement, vous me la présentez, parce que moi, j'en connais pas beaucoup.
Attention, là. Vous dites que toutes les femmes ont été agressées?
À partir d'une heure, les gars de Hard Sports prennent les commandes.
Éric Veilleux et Christian Dallaire vous offrent via leurs collaborateurs invités le seul fond de sport controversé à Québec.
Justement, je voulais en revenir encore avec Steve Bégin. Est-ce que ça pourrait faire un meilleur capitaine que Sakou Koivu?
S'il y a de la graine de capitaine, c'est sûr. C'est un leader, c'est un gars qui va aller au front à chaque soir, qui va se donner pour son équipe à 100%.
Et puis la musique, rien à voir avec les autres. Look out, rocking.com.
From 91, you're listening to Wake Up with Ismaël Trépanier.
Wake Up!
Bon. On est prêt. J'espère qu'on va être à la hauteur. Le www.rocky.com. Wake up le matin de 9h à 13h. Et du côté de l'Europe, c'est 15h à 19h. C'est aussi simple que ça. J'espère que, comme je vous dis, j'espère être à la hauteur et que Mme Delcambre aussi sera à la hauteur pour botter des culs.
Voilà.
C'est aussi simple que ça. Je vous laisse la parole, Mme Delcambre. Comment allez-vous, première des choses?
Ça va très bien, mon cher animateur préféré.
Ben merci. C'est...
Que je choisis pour dire des choses que je n'ai dites nulle part ailleurs.
Ben merci, c'est
gentil.
Et
ce que je veux dire aujourd'hui,
oui,
c'est qu'on nous raconte des mensonges.
Oh.
Et si on dit que ce sont des mensonges, on passe pour islamophobe. Je vais vous donner quelques exemples qui ne sont pas tristes. Parce qu'effectivement, la bombe explose aujourd'hui.
Okay.
Parce qu'on prend prétexte que le non-musulman ne connaît pas l'arabe pour nous raconter n'importe quoi. Et je vais vous donner des exemples bien précis. Pour les Français, et je ne sais pas pour les Canadiens, mais pour les Français en tout cas, quand on parle du voile, on dit chador ou hijab ou burqa. Et les musulmans nous disent, ah oui, mais je vous mets au défi de trouver le mot hijab dans le Coran. Ça n'existe pas, donc le Coran ne parle pas du voile. Gros menteur, je prends le Coran. Sourate 33, verset 59, et je lis ceci, je le dis d'abord en français, « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile. Elles seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. » Je regarde l'arabe, et je vois « Ya ayyuhan nabi, kulil azwajika wa banatika wa nisa il mu'minin » Yudnina alayhinna min jalabi bihinna. Autrement dit, le mot utilisé, c'est pas le mot hijab que connaît le français, c'est le mot jilbab, pluriel jalabib. Mais ça veut dire voile, c'est la robe très très ample qui va jusqu'aux chevilles. Deuxième exemple. Autrement dit, la réalité existe, mais c'est un autre mot de vocabulaire. Mais c'est bien le voile qui est marqué. Et on vous dit, comme c'est pas le mot que vous connaissez, mes pauvres imbéciles, eh bien, ça n'existe pas. Deuxième exemple, sourate 24, verset 31. Dis aux croyants de baisser leur regard, aux croyantes, mais c'est aussi pour les croyants, dans le verset d'avant. Sourate 24, verset 31. Dis aux croyantes de baisser leur regard, d'être chastes, de ne montrer de leurs atours que ce qu'il en paraît, qu'elles rabattent leur voile sur leur gorge. Et là, le mot utilisé, c'est le mot khimar, pluriel khumur, qui veut dire voile. Autrement dit, ce n'est pas encore le mot hijab, ni chador, ni tout ce qu'on connaît qui est utilisé, mais ça veut bien dire voile. Et dans la sourate 33, verset 53, paragraphe 2, quand vous demandez un objet aux épouses du prophète, demandez-le derrière un voile. Et c'est marqué wara il hijab. Alors, hijabin. Ici, le mot hijab est utilisé. Mais ça veut dire dans le sens de rideau. Parce que le mot hijab veut dire à la fois voile et rideau. Et on nous dit, ah mais voyez, le mot hijab est bien utilisé. Mais ça veut dire rideau dans le Coran. Autrement dit, on joue sur notre ignorance de l'arabe pour dire, eh bien non, soit tel mot n'est pas dans le Coran, ou il a un autre sens. En réalité, bien sûr que l'obligation du voile existe dans le Coran, et même si ce n'est pas les mots que nous connaissons dans les journaux qui est utilisé. La même chose pour le mot djihad. On vous dit, oui, le djihad, mais ce n'est pas ce que vous croyez, c'est un effort spirituel. Ce qu'on oublie de dire, c'est que le mot combat, le plus utilisé, c'est pas le mot djihad, c'est le mot qital. Qital qui veut dire combat. Et dans la sourate 2, verset 216 ou 212, le combat vous a été prescrit. Kutiba alaykumul qital. Mais alors là, vous allez rire, Ismaël, le fait d'embrouiller les choses, oui. Le record du mensonge, le pompon, c'est l'affirmation que le Coran est sioniste. Alors écoutez okay. bien, là, c'est ça vaut son pesant de cacahuètes. Un berbère marocain a écrit un article le 22 janvier 2005, ce Marocain s'appelle Abdelkader Amlou, et il écrit ceci, « Quand le Coran est sioniste ». Évidemment, toute la communauté juive a été absolument effrayée, c'est un trouble dans la communauté juive, parce que l'article est très habile. Vous allez voir comment il procède, c'est inimaginable. Il dit, c'est un mélange de vérité et d'occultation, il dit, le Coran est bien clair en ce qui concerne la promesse de donner la terre sainte aux fils d'Israël. Il suffit de lire du verset 20 au verset 26 de la sourate 5, Al-Ma'ida, c'est cette fameuse sourate 5, pour se rendre compte de cette vérité.
Je peux vous Madame Delcam, je peux vous poser la question, quel est le prénom et nom du fils
Abdelkader Amlou.
Abdelkader Amlou.
A-M-L-O-U. Vous pouvez le retrouver sur Internet.
Ok, c'est bon.
Et il dit... Il y a bien sur 6258 versets coraniques, ou 6236, 670 versets, soit plus de 10,6% pour nous raconter l'histoire des fils d'Israël. Ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai. Versets dispersés dans 26 sourates sur 114, soit 22,8%. Et tout le monde est absolument éberlué. On dit, oh là, qu'il est savant, qu'il est bien. Et il ajoute, on peut attribuer sans crainte à ces textes le qualificatif sioniste, car ils appellent à l'entrée du peuple dans le territoire promis. Il ne dit pas le peuple juif, hein, il dit à l'entrée du peuple, c'est-à-dire des fils d'Israël, dans le territoire promis. Alors évidemment, tous les rabbins bébêtes qui sont un peu de gauche en Israël disent « Regardez comme c'est bien, oh là là, on va pleurer !» Effectivement, le verset 21 de la sourate 5, ou alors 24, hein, dit « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a destinée. Ya qawmi utkhulul ardal muqaddasa allati kataba Allahu lakum. » C'est vrai, c'est beau, on va pleurer. Le verset 20 était pareil. Quand Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, quand il mit parmi vous des prophètes, il fit de vous des rois et vous donna ce qu'il n'avait donné à nul autre. Wa isqala Musa li qawmihi ya qawmi uskuru ni'mat Allah alaykum. Ce que l'auteur ne dit pas.
Ah. C'est ce petit boulot.
C'est le verset 26 ou 29.
C'est ça.
Ça dépend de la sourate 5. Le Seigneur répondit, cette terre est interdite aux fils d'Israël, ne te désole pas pour ce peuple pervers. Là, ça commence à se gâter.
Oui.
Et il est tout à fait remarquable, mais nullement étonnant, qu'Abdelkader Amlou parle dans son article des fils d'Israël et pas des juifs. Il dissocie bien les deux. Et de même qu'Abraham, Moïse et les autres prophètes sont purement musulmans, purifiés des fautes de leur peuple, de même que la Torah, la vraie, c'est celle qui existait avant que les juifs ne la falsifient, l'Israël justifié par le Coran, eh bien, c'est un Israël musulman. Et les vrais fils d'Israël sont des croyants musulmans. Le sionisme qu'Abdelkader Amlou justifie en se fondant sur le Coran, c'est un sionisme musulman et pas un sionisme juif. Et c'est là l'abus de confiance. C'est là le côté dangereux de ce demi-mensonge. Mais le quatrième exemple, alors là, tenez-vous bien, c'est l'exemple de Mustapha Chérif. Mustapha Chérif, il a eu un article dans Le Point. Alors, il y a d'un côté Malek Chabel, notre ami adoré, qui a fait un article où il attaque Batior et son livre, Eurabia, en disant « c'est une islamophobe ». Il n'a pas osé m'attaquer, heureusement, parce que là, je le déchirais aujourd'hui. Hein.
Mais attendez, Chérif, là, pourquoi vous ne le déchirez pas?
Ah ben si, mais là il ne m'a pas attaqué cette fois-ci.
Okay,
donc,
okay.
Mustapha Chérif... Vous savez, il est responsable, parce que Finkielkraut, vous connaissez Alain Finkielkraut, avait voulu, c'est un philosophe chez nous, français, et il avait voulu m'inviter, mais fallait qu'il trouve un musulman qui me pour le débat. Et ce Mustapha Chérif a dit, ah non, je ne discute pas avec une islamophobe. Alors j'ai acheté son livre. Et j'ai fait pour ce livre ce qu'avait fait Caroline Fourest pour Ramadan. J'ai analysé le livre de ce Mustapha Chérif, ligne après ligne, jusqu'à 5 minutes avant que vous n'appeliez.
C'est le meilleur truc. Il n'y a pas d'autre truc que ça.
Oh, c'est exact. Vous avez tout à fait raison. D'abord, pour ceux qui écoutent, là, je vous dis, qui est Mustapha Chérif? Qui est Mustapha Chérif? C-H-E-R-I-F. C'est un philosophe. Il s'intitule islamologue, spécialiste du dialogue des religions, des cultures, professeur à l'université d'Alger. Il a également été ministre et ambassadeur d'Algérie. Et alors, il dit qu'il est islamologue. Ah ben moi, à ce moment-là, je suis astronome. Hein. Mais je ne le connais pas, et il ose me traiter d'islamophobe. Et ce monsieur, pour tous les Français, représente l'islam des Lumières. Tout le monde est heureux. C'est Batior l'idiote, c'est Delcambre l'islamophobe, et lui, c'est le grand philosophe,
ben
pas
oui.
du tout islamiste, éclairé, aimé.
Il a la vérité.
Tout
ce qu'il dit.
Alors, j'ai ouvert son livre.
Il chie de la soie.
Vous assurer que son langage est au début, c'est philosophique, ouais. mystique, okay. merveilleuse formation occidentale. Il commence, hein, et puis j'arrive. Page 46, ligne 20. Alors, au début, c'est un peu cohérent avec lui-même. Le Coran affirme trois formes de fraternité. La fraternité humaine, la fraternité monothéiste et la fraternité musulmane. Bon, jusque-là, je me dis, oh, la fraternité, mon pote, faudrait l'avoir. Hein. Mais ensuite, attendez, ne riez pas.
Non,
allez avoir mieux que ça, ça va de mieux en mieux. L'islam rappelle, confirme les révélations antérieures. Puis, dans un deuxième mouvement, critique les déviations, non pas les messages antérieurs, hein, il s'affirme comme dépassement des messages anciens, dans le sens où il présente le Coran comme dictée surnaturelle, intrusion de la parole du Créateur dans le temps des hommes, révélation de portée universelle et valable jusqu'à la fin des temps. Déjà, comme musulman, c'est pas mal, hein. Je vois pas la différence avec Ramadan.
Ben
mais
bon,
on continue.
Ça...
Écoutez bien.
Oui.
C'est la piété taqwa qui introduit une hiérarchie et une différence entre les êtres. C'est la piété. Alors, vous et moi, on n'est pas gâtés. Hein. C'est la page 46. Or, figurez-vous que j'ai un élève qui m'avait dit cela en arabe, un marocain de 15 ans. Je n'avais pas réagi parce qu'il avait dit, mais si, vous savez, l'islam, c'est drôlement bien. C'est la piété qui introduit une hiérarchie, une différence entre les êtres. Mais c'est un gamin de 15 ans, un pauvre petit marocain qui vient. Et voilà que ce monsieur qui fait des cours, qui a donné des conférences, professeur invité au Collège de France, il m'écrit ça. Oh, bonsoir de bonsoir. Et page 47, il écrit, ça va de mieux en mieux. Sans souci d'apologie, oh ben bien sûr, sans exagération, on peut donc affirmer avec certitude qu'aucune trace de racisme, de sectarisme ou d'ethnocentrisme, donc de fermeture, ne peut être décelée dans le Coran. Alors on s'est dit, oh là là,
ben,
là.
Non,
page 46, la supériorité de la communauté islamique, l'Oumma, n'en est une que si elle recommande et pratique le bien. Autrement dit, il nous met un petit bémol. Il dit, vous savez, l'islam est supérieur, la communauté, mais à condition qu'elle pratique le bien. Ben évidemment, Toto, si elle pratique pas le bien, mais quand même, c'est fort de café. Mais attendez, cette prétention au dépassement et les critiques que l'islam adresse à certains juifs, à certains chrétiens, il dit, évidemment, ne sont pas mineurs. Mais, l'islam se préoccupe de garder l'horizon ouvert. Et alors, page 48, je dis à tous les catholiques qui vous écoutent, catholiques, oyez, écoutez, grand naïf, écoutez bien, je ne dis plus de mots grossiers, pour être comme Radio Courtoisie. Quatrième ligne, page 48, écoutez bien. Au moins trois idées théologiques sont catégoriquement réfutées par l'islam. La première, c'est celle du péché originel. Il n'y a pas de péché originel en islam. La deuxième idée qui est refusée tout aussi catégoriquement par l'islam, c'est l'idée d'incarnation. La troisième idée, c'est la crucifixion du Messie. Écoutez bien ceux qui aiment le dialogue islamo-chrétien. Et il continue. Ces trois idées ne sont pas, selon l'islam, de simples différences. Écoutez bien. Ce sont des idées productrices d'un risque grave, celui de fermer l'horizon. Elles préparent les dérives de l'Occident moderne. Oui. Ces trois idées sont responsables de l'athéisme, forme de révolte, et des polythéismes. Autrement dit, ce que ce monsieur dit, invité par nos sous-bonsoirs de bonsoir, il dit le responsable de la fermeture de l'horizon, le responsable des dérives de l'Occident moderne, le responsable de l'athéisme, le responsable, c'est le catholicisme. Bravo si vous êtes autant maso, flagellez-vous les gars. Et page 48, en bas de la page, c'est fermer l'horizon que de refuser la distance qui nous sépare du divin en inventant des idoles et des dogmes. Ah ben dis donc, merci. Autrement dit, un horizon ouvert, c'est d'accepter la religion. Et il ajoute, page 49, l'attachement au Coran a pour but d'éviter de perdre de vue l'orientation, Houda, la bonne direction. Alors je dis, où est la différence avec Tariq Ramadan? Je vous demande. Et en plus, il continue, il dit que l'importance de la langue arabe, mais regardez le côté mensonger, presque toutes les racines de la langue arabe sont polysémiques, avec plusieurs sens. Alors, l'harmonie de cette langue, c'est plus qu'un art, ça donne le sens vrai du Coran. Mais attendez, à qui il parle là? Il nous prend pour des crétins? Et c'est pourquoi il dit, les lectures fermées, non, il faut l'ouvert, la révélation. Il parle de l'islam, hein. C'est l'ouvert, oui. C'est ce qui est ouvert. C'est évidemment pour le Coran, le croyant, pardon, une parole incréée, valable de tout temps et en tout lieu, c'est la page 61, et cela évidemment n'empêche pas une évolution de l'interprétation. Et alors il ajoute, attends, je vais revenir, les versets violents sont baptisés versets fondés sur la fermeté. Il ne dit pas fermeture, il dit fermeté. Et cela s'adresse à la collectivité, non pas aux croyants seuls.
Mais bon.
Vous imaginez?
Madame Delcamp, là, oui. Je savais pas qu'ils avaient autant la vérité. Bon sang.
C'est effrayant. Et
ben
je
ne
vous dis pas. Alors, moi, je veux dire quelque chose qui va vous plaire. Qui va vous plaire parce que là, il règle son compte aux féministes d'une manière. Il dit que.
Ah, tiens donc.
Il dit, la page, voilà ce qu'il dit dans la question. Oui, alors évidemment, il joue encore sur le mot « ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme, non pas il dit comme amis, mais c'est comme tuteurs à Oulia, ça on le sait, de toute façon ça veut dire ne collaborez pas avec eux, pour idiot. » Mais la question de la femme, il dit ceci. Alors là, j'ai peur qu'Elisaïevna, si vous nous écoutez, ne vous évanouissez pas. La question de la femme,
ça fait longtemps que c'est fait.
Source d'ambivalence, de confusion et d'incompréhension. Il dit page 66. Le modèle du couple moderne, regardez comme il est malin, il fait ses conférences, son livre est fait avec ses conférences du Collège de France. Il ne va pas attaquer la France, regardez ce qu'il dit. Le modèle du couple moderne, tel que véhiculé par l'Amérique d'aujourd'hui, par exemple, rompt l'équilibre, efface la différence homme-femme sous prétexte des qualités des sexes. Or, l'effacement des différences entre l'homme et la femme n'est pas conforme au bon sens. C'est lui qui le dit, hein. L'altérité féminine, page 67, c'est la plus profonde et la plus secrète des altérités. Et il continue, la femme n'est pas un homme, contrairement à ce que veulent les ultra-féministes et les modernistes en Amérique. Elle est et demeure humaine. À l'opposé de ce que pensent les extrémistes religieux. Ah ben bravo.
Hey, merde.
Extrémistes religieux. Bon, il continue. Le rapport entre la liberté et la pudeur. Attention. Ni enfermer, cacher et obscurcir la femme, ni l'exposer vulgairement sous prétexte d'émancipation. Car la femme vraie, oh là là, elle va devenir folle. Elle est généreuse. La générosité, c'est la femme.
Attention, je vais tomber, je vais m'évanouir.
Alors, écoutez bien, asseyez-vous. Nous sommes à milieu de ceux qui effacent les différences et qui n'ont aucun sens de la pudeur, page 97. Alors, voyez, là,
ah, oui.
Là, mais
ah,
il faut
oui.
Vraiment lire. Et alors, évidemment, vous allez rire, là. L'Occident, c'est évidemment l'horreur. C'est pas spirituel, c'est déshumanisé, déspiritualisé, les repères, les signes. Alors, pour avoir des repères, vraiment, Ismaël et moi-même, il faut que vous écoutiez ça, page 130, page 137. Les repères, les signes, les orientations que donne le Coran, eh bien, ça exige la plus grande attention. Parce que classer l'islam, page 137, dans la catégorie des idéologies haïssables, c'est non seulement injuste, mais ça ne règle rien. Au contraire, cela fait perdre de vue un partenaire décisif pour tenter de faire face à l'avenir. Et page 137, dans la dernière ligne, parce que notre époque apparaît comme source de déshumanisation et que l'ère industrielle et le progrès moderne n'ont pas produit une civilisation, le dialogue doit être ouvert avec les autres cultures, au premier chef avec la pensée arabe qui a contribué à l'éclosion de la modernité initiale et originelle. Et il dit l'islam de toujours, celui du progrès et des lumières peut apporter sa contribution. L'islam est une des figures créatives de la résistance contre tous les obscurantismes. Et il ajoute, nous avons, il a dans son chapitre intitulé « Un chemin salutaire, l'amitié des gens du livre », il ajoute, « Nous avons le droit de critiquer l'Amérique sans tomber dans l'anti-américanisme. Nous avons le droit de dénoncer les actes iniques et coloniaux du gouvernement israélien sans être accusé d'antisémitisme. » Et moi, j'ajoute, avant que vous me posiez une question, nous avons le droit, nous, de dénoncer les textes dangereux de l'islam sans être accusé d'islamophobie.
J'ai pas de questions. C'est regardez là.
C'est inimaginable. C'est, vous savez quand je pense
pas,
que
c'est la logique. Ma c'est la logique même. Ils se croient dans une.
Incroyable.
C'est incroyable. C'est incroyable.
Je veux dire,
encore le mot. Et j'aimerais ramener le mot athée. Le mot athée encore qui nous met dans la bouche. J'en ai rien à foutre. Je ne suis pas un athée. Je suis un être humain.
Imaginez que cet homme-là, c'est l'homme qui est, en quelque sorte, comme dit Batior, à l'origine d'un dialogue euro-arabe. Quelle société, vous voyez, pour ça j'en reviens, pourquoi j'ai voulu faire cet exposé aujourd'hui. Quand on parle, quand Philippe de Villiers parle de... Non, je ne suis pas, vraiment, je ne suis pas inscrite à son parti, donc je plaide pas pour lui, c'est pas ça. Mais je veux quand même dire que lorsqu'il parle de l'islamisation, quand vous faites venir cet homme qui écrit le français mieux que moi, qui est philosophe, qui est ambassadeur, qui est professeur d'université, et qui vient parler à l'école, qui vient parler à, comment dirais-je, au Collège de France, que tout le monde va écouter, que monsieur Finkielkraut considère vraiment comme un partenaire idéal, et que cet homme nous ponce, bon je veux pas être grossière, quand nous ponce ce genre de choses, et quelle est la différence, moi je pose la question, parce qu'attendez le problème, en me traitant d'islamophobe, pour la première fois, quelqu'un qui avait lu mon livre, vous voyez, qui a trouvé mon livre, L'Islam des Interdits, a dit, mais quel but avez-vous, vous allez traiter d'islamophobe, vous voulez quoi pour nous? Alors ce monsieur-là, il est là, heureusement, j'ai pris en arabe, j'ai parlé en arabe en disant, je suis contre le mensonge, on n'achète pas la paix sociale sur des mensonges. Et il y en a un que je considère un peu comme un islamiste, il a dit, elle a raison. Il faut dire la vérité, ce n'est pas des gens qui ne connaissent même pas la première sourate du Coran qui vont nous commander. Elle a raison, il y a une part dans le Coran de violence, et il a justifié le pauvre Ben Laden, je faisais semblant de ne pas entendre. Vous voyez, c'est-à-dire, nous sommes dans une guerre idéologique, et je ne veux pas que quelqu'un comme De Villiers soit lapidé, c'est le cas de le dire, pour des choses où il a raison. Parce que ce monsieur qui vient ici, qui n'est absolument pas sorti d'Arabie Saoudite, qui n'est pas considéré comme un islamiste, qui n'est pas considéré comme un frère musulman, si vous lisez son livre, les éditions Odile Jacob, préfacé par un philosophe admiré par Finkielkraut, c'est aux éditions Odile Jacob, l'islam tolérant ou intolérant, préface de Jean-Luc Nancy, qui est un philosophe, il a tous les hommages, et quand vous lisez son livre ligne par ligne, c'est tellement bien écrit que parfois vous comprenez rien, c'est vraiment de la philosophie à haut niveau ou de la mystique à haut niveau, et quand vous prenez votre crayon et que vous regardez ligne après ligne, vous vous dites, mais bonsoir, c'est une islamisation en douceur. Où est le statut de l'athée? Où est le statut du non-croyant? Où est le statut du juif? Où est le statut de l'israélien par là? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je hurle? Parce que on se fait avoir
et Madame Delcambre,
des gens qui...
Et Madame Delcambre, je crois que les gens qui écoutent aussi saisissent votre message.
Ah oui, bon, très bon, parce que je
est-ce
vous assure, nous...
Est-ce que vous vous considérez authentique, Mme Delcambre? Est-ce que vous vous considérez, Mme Delcambre?
On vit... Batior, elle se cache.
Oui.
Philippe de Villiers, il risque quelque chose, même il risque d'être attaqué, traîné dans la boue. Et moi, je risque quelque chose, parce que quand même, j'enseigne l'islam, et j'enseigne pas l'islam, mais j'enseigne l'arabie littéraire, c'est important pour mes élèves. Et je risque quelque chose quand ils entendent, parce que les autres disent des mensonges. Et je dis aux élèves qui de plus en plus m'écoutent, attention, chers élèves, je n'invente pas un islam qui n'existerait pas. Je dis la paix sociale, l'intégration que beaucoup veulent, ne s'achète pas et ne se construit pas sur des mensonges. Il faut présenter les textes. Ensuite, si quelqu'un se convertit, il se convertira en connaissance de cause. Mais le mensonge n'a jamais rien apporté.
Mais
il y a des textes de l'islam.
Oui. Mais Madame Delcambre, qu'est-ce qui agresse le plus ces gens-là, justement, quand vous venez faire un tour ici? Je crois que j'ai une petite idée là-dessus, c'est votre authenticité avant tout. L'authenticité...
Il faut arrêter parce qu'il joue quand même avec la réputation des gens.
Wow. Moi, je sais écoutez, Mme Delcambre, moi sérieusement, c'est pas quelque chose qui va me faire fléchir les qui va me faire fléchir les genoux ou ce qu'ils pensent de moi ou ce qu'ils peuvent inventer sur moi. Je sais avant tout qui je suis et la même chose pour toute l'équipe qui travaille ici. Alors nécessairement, par la bande, ben j'essaie de m'entourer de gens qui ont une culture et qui ont un savoir tel que vous. Okay.
Alors moi, je voudrais vous poser à mon tour une petite question. Ici.
Allez-y.
Je suis allée sur la radio rocky.com.
Oh non.
Et j'ai vu vous aviez... Ah non, vous voulez pas?
Ouais, allez-y.
Je vous pose une question.
Mais oui, allez-y, je blague.
Eh bien, j'ai vu que vous aviez en primeur les textes du livre qui est si apprécié, si commenté, si...
Ouais.
De,
les mosquées
de Roissy.
Ouais,
les
mosquées
de...
Oui, ouais, les 46 pages, on les a eues en exclusivité.
Ouais, et c'est pas moi qui vous les ai envoyées, parce que je sais que certains pourraient dire... Je ne les ai pas, il ne m'a pas envoyé son livre, mon éditeur m'a téléphoné, un de mes éditeurs m'a téléphoné. Il m'a dit, vous avez le livre de De Villiers? J'ai dit non, De Villiers ne m'a rien envoyé. Donc, c'est pas moi, je vous jure que c'est pas moi qui vous ai envoyé les textes. Ça doit être du bureau de Villiers. Bon, c'est bien, c'est une façon de vous reconnaître sans parler chez vous. Va-t-il parler chez vous?
Je ne le sais pas encore. Je trouve que les gens qui l'entourent, ce sont de purs enculés. Je tiens à le dire sincèrement. Je me rétracterai pas du tout sur ce que je pense, parce que les attachés de presse, c'est les pires têtes à claque qu'il n'y a pas au monde. Qui ne rendent absolument pas l'essentiel de ce que je veux faire avec M. De Villiers.
C'est exact. D'ailleurs, ils ont pu constater, j'ai fait un exposé où, justement, je ne sais pas si vous avez constaté, vous êtes un animateur qui s'adapte à la personnalité de celui ou de celle qui parle.
Caméléon.
Si moi, je veux dire des mots grossiers, vous me laissez faire dire ce que je veux. Si je ne veux pas en dire, vous ne m'obligez pas à en dire. Je crois que ça, les gens ne l'ont pas saisi. C'est moi qui, parfois, veux réveiller en disant quelques mots comme ça pour ponctuer, parce que parfois, justement, en employant un mot que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre, ça réveille.
Et voilà.
Mais vous vous adaptez à celui que vous interviewez. Quand vous avez reçu le Chinois, Monsieur Ponk, vous n'avez pas fait la même manière que si vous interrogez un spécialiste, un rocker qui va parler d'autre chose. Ça dépend beaucoup, l'ikuli maqam maqal, comme on dit en arabe. À chaque situation, il y a un discours.
Je peux peut-être dire ceci, c'est que j'aime l'être humain, ça me semble.
Bien sûr.
Alors, je dois nécessairement m'adapter à lui et comprendre.
Ben, bien sûr.
Ben, je pense que c'est normal aussi, à quelque part, que lorsque je vais interviewer quelqu'un, que je vais avoir une entrevue avec cette personne, que je sache ce qu'elle a à l'intérieur d'elle et de la façon qu'elle va s'exprimer. Ben,
et je dois vous dire que ce qui est assez extraordinaire, je n'ai jamais rencontré ça sur une autre radio. Vous ne me demandez pas ce sur quoi je vais parler. Vous ne me demandez pas si je serai là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous prenez tous les risques du direct.
Oui.
Vous ne savez pas si je...
Oui,
vous me dites, en
principe,
c'est un contrat entre nous. Mais je veux dire que j'ai eu des radios, je ne citerai pas lesquelles, où peut-être on me téléphone 3 fois, 4 fois, n'avez-vous pas...
Radio
appuyé,
Courtoisie
là. Pardon?
Radio Courtoisie?
Non, parce qu'avec Reichmann, ça marche. Mais disons que certaines radios, ils sont... Parce que, pour eux, ils se disent, si un auteur ne vient pas... Ici, vous, il y a un contrat de confiance. C'est-à-dire, vous dites ce qu'elle va parler, je lui fais confiance. Bon, si elle allait trop loin, je l'arrêterai. Mais, voyez, c'est ça que j'appelle vraiment les conditions idéales pour parler. Mais... sans vouloir vous flatter.
Oh, écoutez.
Non, c'est pour ça que j'essaie de dire sur votre radio ce qui ne s'entend nulle part ailleurs, de vous dire de l'inédit, pas seulement, d'accord, mon principal objet c'est le Coran et les hadiths, mais oui. Quand parfois je trouve quelque chose qui peut poser problème, parce que les gens, c'est vrai, pour Mustapha Chérif, ils vont lire ça, et peut-être les gens ne feront pas ce que j'ai fait, parce que j'ai passé des heures et des heures avec mon crayon à guetter, parce que on lit comme ça en diagonale, on ne trouve rien. On trouve la philosophie, Jacques Berck, le mysticisme, René Guénon, Averroès. Mais si on prend son crayon et que l'on va ligne après ligne, alors là, on voit que ce monsieur n'a pas un discours différent de Tariq Ramadan. Absolument pas. La différence, c'est que Tariq Ramadan, il est considéré comme un diable et il n'est plus accepté, alors que monsieur Mustapha Chérif est accepté pour faire, vous rendez compte,
oui.
Invité au Collège de France. Et avec ses conférences, il a fait un livre aux éditions Odile Jacob.
Aucun
un
sens.
Livre qui vaut 22,90€ et qui ne m'attaque pas, j'ai fait de la pub pour son bouquin.
C'est du vol.
Il faut presque à la voix voir combien Batian pour son livre Eurasia, oui. Pour qui je fais de la propagande là.
Vous avez
a raison.
Vous savez, Madame Delcambre, Madame Delcambre, ce matin, on a eu une personne qui est venue discuter justement de la radio en général, un peu comme on le fait en ce moment, puis on parlait un peu de tout, et on est tombé bien sûr sur le sujet rocket.com. Il nous a fait un compliment et que je prends beaucoup. C'est-à-dire qu'on est près des auditeurs, on est près de ceux qui nous écoutent, et je pense que c'est tout à fait légitime et normal de le faire.
Je trouve ça vraiment très bien, et en plus avec beaucoup de naturel, parce que on en a assez. C'est vrai d'appeler, il faut appeler un chat, il faut dénoncer, il faut. C'est vraiment. En plus, vous rendez service parce que comme vous êtes de plus en plus écoutés. Et moi aussi, je tenais à mettre les pendules à l'heure parce qu'avec ce genre de désinformation qu'on trouve en France, je vous assure qu'il va y avoir la chasse aux sorcières et qu'on ne saura plus qui est qui. C'est très facile de traiter l'islamophobe. Alors quand je vois cette espèce de bonhomme, je m'excuse de dire, qu'il dit nous avons le droit de critiquer Israël sans être accusé d'antisémitisme, eh ben moi j'ai le droit quand même, puisque je suis islamologue, de critiquer les textes de l'islam sans être islamophobe. C'est n'importe quoi, franchement.
C'est ça, exactement. Regardez, j'ai une question ici de la part d'auditeurs. Il y en a plusieurs que je ne pourrais pas passer. Veuillez m'en excuser aussi auprès des auditeurs parce que, on essaie de choisir d'être sélectif.
Bien sûr.
Et bien sûr, il y a toujours aussi le site LibertyVox, où ce que je crois que vous répondez encore aux questions, hein, si je ne me trompe pas.
Toujours.
Alors, toujours. Ça,
C'est mon site, j'y habite.
c'est un lit douillet. Il y a Karim ici, qui est d'origine algérienne, j'espère que je ne me trompe pas, qui demande...
Ah, c'est comment... le même Karim, il doit être toujours collé, lui. Il doit être envoyé par les musulmans pour poser des questions, oui.
Oui, tout à fait. Et on commence à saisir un peu le scénario.
Bonjour Karim, oui, c'est ça, je le salue.
Comment expliquer que la femme du prophète n'ait jamais mis le voile?
Il a raison dans un certain sens. C'est tout à fait vrai ce qu'il dit.
Oui, tout à fait.
Je vais vous dire pourquoi c'est vrai.
Allez-y.
C'est que, en fin de compte, au début, les femmes du prophète ne mettaient pas les voiles jusqu'au moment où Omar, le compagnon, a vu que certaines femmes sortaient à Médine pour aller au toit, pour aller, comme il n'y avait pas de toilette dans les petites maisons, elles allaient dans les terrains vagues pour faire leurs besoins, et qu'elles étaient évidemment importunées. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu la révélation du verset du voile qui est intervenu, mais il y a eu une période où effectivement les femmes du prophète ne portaient pas le voile. Il a raison, il connaît bien son histoire.
Ok.
Mais n'empêche que dans le Coran actuellement, puisque le Coran est la parole de Dieu, à partir du moment où un verset a été révélé, cher Karim, on n'est pas à Médine avant la période de la révélation, donc les musulmans croyants, maximalistes, sont obligés d'appliquer ce qui est marqué dans le Coran.
Je renchéris avec celle-ci qui me semble intéressante. Y a-t-il autant de dangers avec les musulmans chiites qu'avec les musulmans sunnites? Lorsqu'on pense, dans le fond, on pense à l'Iran qui s'équipe de l'arme atomique.
Alors, là, on touche vraiment, vraiment. Je pense que le danger, il n'y a pas... C'est-à-dire que c'est vrai que l'Iran est là, mais le problème, c'est que si vous regardez, c'est pour ça que j'ai cité volontairement ce qui est marqué dans la sourate 5 concernant les fils d'Israël,
oui.
c'est vrai qu'il y a une dimension en plus chez les chiites, c'est que pour eux, pour que le, surtout les chiites, imamites duodécimains, c'est-à-dire ceux qui croient à 12 imams, les chiites d'Iran, c'est que pour que le Mahdi, pour que le 12e imam revienne, il faut, il y a la condition, c'est un élève qui m'a dit ça, celui, quand il a su que je parlais sur rocky.com, il a disparu, c'est qu'il faut qu'il y ait l'effacement de l'État d'Israël. C'est pour ça que je dis que le problème israélo-palestinien n'est pas un problème politique comme certains le croient, ou pas uniquement un problème politique, et même du point de vue, c'est fondamentalement un problème religieux. C'est-à-dire que pour un musulman, surtout que ce soit sunnite, mais encore plus chiite, l'avènement, vous voyez, toute cette idée de, d'avènement du dernier, de l'imam justicier, eh bien, il faut que Israël soit rayé de la carte. Parce que c'est un peu comme si on vous disait, Ismaël, vous avez un cancer, il faut l'enlever.
Il faut
pour que le corps reste sain.
C'est malade. C'est vraiment
et
malade.
Vous savez, c'est ça qui est grave. C'est que moi, de plus en plus, et presque dans chaque intervention, parce qu'attention, il y a des rabbins qui connaissent rien, ils font une analogie avec leur texte de la Torah et du Talmud. Le problème de l'islam, c'est à la fois étrangement semblable et tout à fait différent. Et je dis, chaque fois, dans chaque intervention presque, c'est pas que je sois pro-israélienne ou pro ou philo-sémite ou ce que vous voulez, c'est que je trouve qu'il y a une menace réelle et que c'est le devoir de pays en danger que d'avertir, puisque je le sais. Je dis, pour un musulman croyant, Israël juif, l'Israël juif triomphant, là où les anciens ennemis marchent la tête haute, c'est quelque chose d'insupportable, d'intenable, et s'il pouvait avoir une bombe, il rayerait d'un seul coup toutes ces créatures orgueilleuses, ces singes abjects, comme il a dit, ces orgueilleux, ces singes Kradatan Khasin, qui ont osé justement s'opposer à la prédication. Vous savez ce que m'a dit un élève quand il est rentré avec moi hier soir? Il m'a dit, vous savez, nous sommes très gentils avec des juifs. Alors je l'ai écouté, il parlait en arabe. Il dit, vous savez, tous les jours, il y avait un juif qui mettait une poubelle. Alors, je sais pas, il a traduit poubelle, mais des ordures devant la porte du prophète. Et le prophète ne disait rien. Un jour, il n'y a plus eu d'ordures. Alors, le prophète est allé voir le juif. Il a dit, tu es malade? Le juif est sorti. Il a dit, non, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que tu ne t'as pas mis des ordures devant ma porte aujourd'hui. Et le juif a tellement été séduit par la bonté du prophète qu'il s'est converti. Et l'élève a dit, un juif qui, par exemple, se met à écouter la parole de Dieu, nous les aimons comme des frères. C'est vrai, c'est touchant quand on écoute ce genre de discours. Et je vous assure que l'élève était sincère. Non, je dis ça, attention, séparer les textes des hommes. Il était sincère, c'est-à-dire que pour le musulman, les juifs qui n'acceptent pas l'islam, ce sont des êtres qui sont dans une erreur évidente.
Mais par contre, Madame Delcom, c'est ça, les gens qui ont besoin absolument de prôner un dieu ou quelque chose comme ça, j'ai toujours eu le même impression depuis que je suis haut comme trois pommes, parce que vous savez,
c'est vrai, moi aussi.
Du haut de,
il y a
de...
sur notre forum quelqu'un qui s'appelle Uncle et qui on est nous sur le forum, on est super agnostique, mais on n'est pas nombreux, hein. Il y a beaucoup de gens qui croient, alors c'est pour ça que je dis faut les laisser libres aussi, moi je suis laïque, hein. Donc il faut les laisser. Bon, d'accord, moi je veux pas qu'on m'impose. Alors, attendez, le problème, je dis, je vous laisse libre, hein, que les gens viennent exposer le judaïsme sur le forum, que les gens viennent exposer le christianisme, c'est vrai, c'est même la connaissance, c'est ce qui a franchi. Mais à condition de ne pas essayer de convertir les autres. Est-ce que vous voyez ce que je fais bien comprendre?
Exact.
Je dis, quand les protestants sont allés, et avec des indiens, et disant, ça c'est, j'ai dit non. Un chaman peut avoir plus d'intelligence qu'un évangéliste idiot qui va courir après pour me convertir.
C'est ça.
Non, mais c'est vrai, hein, moi je crois vraiment, je suis persuadée que les indiens, ils ont des, ne serait-ce que pour guérir et tout, moi je supporte pas les gens qui veulent convertir. Évangélisation, islamisation, au moins les juifs, eux, ils ne cherchent pas à convertir.
Ben moi, depuis que je sais que justement les Indiens entre eux, les guerriers pouvaient pratiquer l'homosexualité, que c'était normal, ben, je trouve ça encore un peu moins.
Vous trouvez ça bien?
Non.
Ah bon?
Je trouve ça bizarre. Il y a toujours une déviance dans.
Ben c'est ça.
Il y a toujours une déviance dans chaque religion. C'est bizarre, hein?
Oui, parce que
je pourrais prendre les samouraïs, je pourrais prendre le catholicisme, je pourrais prendre les chrétiens, je pourrais prendre l'islam, je peux prendre pratiquement toutes sortes de religions. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une déviance, il y a toujours de quoi qui ne marche pas.
Moi, je crois que là où c'est assez génial ce que vous dites, ça veut dire qu'en fin de compte, il y a une nature de l'homme qui instrumentalise quel que soit le credo, quel que soit ce à quoi elle croit, eh ben, ça redonne la nature humaine, déraille tout le temps.
J'ai l'impression, et vous voyez, ça me donne cette impression-là, qu'il justifie cette religion-là pour commettre, enfin, ses actes.
Ah mais c'est sûr, moi j'y crois, je crois même à la limite, mais ça c'est vrai ce que vous dites, c'est qu'actuellement il y a des conversions en France, c'est un rapport des RG, des renseignements généraux, celui qui, par exemple, un jeune, qui trouve qu'il a... Bon, ben c'est vrai, qui est attiré vers des idées de violence, ce qu'on appelle des djihadistes, il y a des conversions, parce que... Ben, ou ceux qui ont des problèmes avec les femmes et qui pensent que dans l'islam, ben, ils pourront plus taper sur les meufs. C'est vrai qu'il y a des comment dirais-je, des arrière-pensées qui font que les gens s'orienteront vers telle ou telle religion, c'est sûr, ça.
Ben,
moi, je suis sûr que c'est pas gratuit, ça.
J'avais un copain qui s'appelait... parce que je ne le vois plus, mais il s'appelait Rachid, j'espère qu'il s'appelle encore comme ça, qu'il est pas mort, mais bon, et lui, il pratiquait l'islam et il avait devant nous corrigé sa femme.
Ah ben oui, c'est possible dans l'islam, parce que c'est la sourate 4, verset 34 ou 38. Frappez-les si elles n'obéissent pas. Mais remarquez, c'est bien pour les féministes, ça. Non, je vais pas être méchante parce que j'adore Elisaï. Mais pour dire, c'est pas ça. C'est que... non, parce que c'est vrai que c'est énorme.
Ouais,
c'est difficile de trouver ça en Occident actuellement. Si les gens... D'être justifié par une loi religieuse pour faire ça.
Ouais.
C'est ça qui est grave. C'est pas le fait qu'ils le font plus que dans différents pays. Mais là, la loi religieuse leur donne raison. D'abord, les admonester, ensuite les reléguer dans les lieux où elles couchent, et... Si elle continue, Nushuzahunna, si elle continue à être, si je puis dire, rebelle, à ne pas obéir, Idribuhunna, frappez-les. C'est grave, hein? C'est grave, parce que ça veut dire que c'est une possibilité. Alors vous me direz, au XIIIe siècle, Beaumanoir, il disait, frappe ta femme si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. Mais à condition de ne pas lui casser un membre. Mais c'était Beaumanoir, c'était un juriste. Là, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
C'est la parole de Dieu. Idribuhunna.
Ses voies sont impénétrables.
Ah ben oui, et inchangeables pour
plus.
Un musulman croyant.
Eh oui.
Ah, je suis désespéré, Ismaël.
Ah, tout à fait. Moi aussi, quand je vous écoute, là, ben non. Ben moi, au contraire, vous me rassurez, mais que je suis pas fou. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est justement, ça remet beaucoup de gens à leur place.
Oui, c'est vrai.
Je présume. Juste un dernier petit truc sur Philippe de Villiers. Comment trouvez-vous l'attitude en douce de nous envoyer les 46 pages de son livre?
Alors moi, je vais être très franche en ce qui concerne cette attitude. Si ça m'était arrivé,
attention là.
Je l'aurais un petit peu mal pris. Pourquoi? Parce que c'est une attitude que je dirais un peu hypocrite. On envoie les feuillets en douce, et quelle est l'attitude que peut avoir la radio de recevoir comme ça? Vous ne connaissez pas l'expéditeur? Il n'y a pas de mot qui accompagnait?
Juste un instant.
Oui, je l'ai.
On le garde anonyme, mais on ne peut pas le donner comme ça. On peut lui envoyer peut-être, on verra. On ne peut pas l'envoyer du tout, sinon on va brûler notre source. Ouais. Aussi simple que ça, madame.
Non, il ne faut pas. À ce moment-là, non. De toute façon, je ne veux pas savoir, parce que j'ai déjà des problèmes avec les musulmans, qui ne veulent pas croire que ce que je dis, c'est uniquement la vérité. Je ne vois pas quel est mon intérêt. Franchement, on ne construit pas sa vie professionnelle sur des mensonges.
C'est ça.
Ça, c'est ça qu'il faut bien qu'ils se disent. Les étudiants qui écoutent et que les autres, à la limite, essaient de dire « Attention, elle fait de l'amalgame, c'est pas ça, l'islam, rien. » Je dis, à mon âge et avec la profession que j'exerce, on ne construit pas un avenir professionnel ou un passé ou un présent sur des mensonges. Ce n'est pas possible. C'est ça, et d'ailleurs, j'ai envoyé mes livres à l'inspectrice et à tous les inspecteurs et au proviseur. Vous savez, le proviseur du lycée migrant a mis longtemps avant de me répondre. Parce qu'ils veulent voir si c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Eux aussi, c'est comme la radio. On teste si c'est... Est-ce qu'elle nous raconte des carabistouilles, des n'importe quoi ou pas? Et c'est pour ça que je dis ce que je dis, c'est vérifié, c'est, je vérifie la traduction, je fais moi-même la traduction, je reprends l'arabe, je vais, s'il y a un mot qui a été très, que je, qui me paraît un peu bizarre, je regarde dans les dictionnaires. Non, je ne plaisante pas, hein. Je ne plaisante pas.
Oui, je vous crois sur parole.
Je fais pas semblant de rigoler, mais attention, c'est grave quand même, parce que vous engagez quand même la culture d'autrui. C'est quand même une culture qui touche plus d'un milliard de croyants. Et les gens sont intéressés à connaître non pas mon interprétation, mais l'interprétation de l'islam. C'est
Madame, normal, non? Madame Delcambre?
Oui.
Quel est votre breuvage préféré?
Mon breuvage. J'aime bien la bière, moi, je dis la vérité.
Ah oui, c'est vrai?
Ah oui, c'est vrai. Je suis du Nord, quand même, donc j'adore. Il y a, par exemple, des bières que j'adore, la Trappiste de Chimère, la Belgique, je trouve. En Belgique, je me suis vraiment régalée. Ils ont des bières, ils sont, ben, en France aussi, mais en Belgique, ouais, j'adore la bière, vraiment.
Ben, et c'est simple, aussitôt que j'en ai la possibilité, je saute dans l'avion et je viens prendre une bière avec vous.
Ah, c'est bien, c'est gentil. Et moi, ce que je voudrais, et un jour on organisera ça avec Jonathan Bouchard, c'est que ceux qui m'écoutent, pour voir que je n'invente pas et que je ne dis pas des n'importe quoi,
oui.
je voudrais que tout le monde achète un Coran pour vérifier justement un Coran, pour voir que c'est bien dans le Coran et c'est pas une invention d'Anne-Marie Delcambre. Vraiment, sincèrement, il y a des Corans. Un jour, on pourrait organiser même un concours de Corans où celui qui enverrait le plus de remarques pertinentes, ben, il finirait par avoir des Corans gratuits. Moi, je serais prête à payer moi-même envoyer des Corans. J'en ai envoyé un à un auditeur, je dis pas qui, enfin pas un auditeur, quelqu'un qui intervient sur le site Libertivox. J'en ai trouvé un, vous savez, il y en a des très jolis illustrés, bilingues, et vraiment, moi je suis très attachée à ce que le non-musulman, l'infidèle, le chien d'infidèle, comme ils disent, soit au courant de ce qui s'écrit dans le Coran, de ce qui s'écrit dans les hadiths. On a quelqu'un, Stabilo, qui sur le forum de Libertivox fait des choses magnifiques. Je vous assure, on n'invente pas. Moi, j'invente pas, hein. Je n'oblige pas les gens à... Vraiment, sincèrement, vous verrez la douceur des hadiths. C'est vraiment doux.
Moi, Madame Delcambre, si j'en achète un Coran, moi, j'aimerais bien avoir l'avoir laminé avec la photo d'Aïcha sur le front page.
Je sais que vous l'aimez particulièrement. C'est pour ça que je vais quand même parler des femmes du prophète, car ce que vous dites toujours, Aïcha. Mais ce que vous oubliez, cher Ismaël,
oui.
C'est que sa première femme, Khadija, avait 15 ans de plus que lui.
Ah.
Je n'ai pas rencontré beaucoup d'hommes qui se trimballent avec une femme de 15 ans plus âgée.
Eh ben. Ben, moi, j'aime les femmes d'expérience.
Ben, vraiment, vous aimez bien ce que choisit le prophète. Hein. Là, vous allez avoir des problèmes avec les musulmans du Canada. Vous aimez bien Aïcha, vous aimez bien Khadija. Ne vous convertissez pas, chérie.
Mais est-ce que je veux... Ah, pardon?
Ne vous convertissez pas.
Ah, ben non. Je suis loin de ça, de toute manière.
D'accord.
Il paraît que je suis le pire des pourris pour, justement... parce que je leur casse le cul, hein, avec mon prénom.
Si vous savez... Remarquez votre prénom. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, je ne sais plus comment il s'appelle,
oui.
Léon IV ou etc.
Oui, quelque chose comme ça.
Ismaël dans la Bible,
et...
on le compare à quelqu'un qui a la force de l'âne.
Je tiens bien mon...
La citation exacte.
Je tiens bien mon
rôle. Alors qu'au contraire, en islam, Ismaël, ben, c'est vraiment...
Et voilà.
Ah non, mais moi, tous ces livres sacrés, je ne vous dirai pas ce que j'en pense, parce que j'aime mettre tous les rabbins et tous les chrétiens et tous les musulmans à dos, mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu bizarre, disons. Vous avez un très joli prénom, ça sonne très bien, Ismaël. Moi, je m'en fiche que ce soit... mais c'est vrai que pour les Arabes, c'est très, 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 très beau.
En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que, comme je vous disais, j'aime les femmes d'expérience, telles que vous.
Non mais moi de toute façon je vous aime bien en tant qu'animateur, mais c'est vrai que je vous parlerai un jour de Aïcha. Vous verrez que c'est une très jolie femme, hein. Très jolie petite fille d'abord et
vous, est-ce que vous
femme
êtes...
après.
Et vous, est-ce que vous êtes jolie?
Non.
Oh.
Ben voilà, il faut... Et je suis, comment dirais-je, assez futée.
Ok.
Et assez intelligente, enfin je crois, enfin ce que les gens disent.
Ouais, pas si mal, pas si mal.
Pardon?
Pas si mal.
Non, mais je suis vraiment, je me classe jamais sur le plan physique, mais intellectuellement, j'essaie de faire le maximum de ce que je peux.
Savez-vous?
En sachant qu'on n'arrive jamais à ce qu'on veut. Hein.
La personne
Oui?
La personne qu'on connaît le moins au monde, Madame Delcambre, c'est qui?
Qui en connaît le moins au monde?
Oui.
En tant que quoi?
Non, la personne qu'on connaît le moins au monde, qui est-ce?
Je ne sais pas, dites-moi.
Ben, c'est soi-même.
Ah, c'est... Ah, bravo. Hey, c'est pour ça que l'autre Toto, il a dit « connais-toi toi-même ».
Et voilà. Aussi simple que ça.
Oui.
Hey, je vous embrasse. Hein.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu encore.
D'accord.
On se reparle la semaine prochaine. Hein?
À la semaine prochaine, hein?
Ben, voilà.
Voilà.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Merci à vous.
Pour émettre un commentaire ou joindre les animateurs en onde, c'est simple.
Allô? Allô?
Ouais. Je pense que ça irait plus vite par MSN. Live@rockic.com, la meilleure façon de nous joindre en tout temps.